gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Si on lui demandait de se présenter, elle nous dirait probablement qu'elle aime la vie, tout simplement, et que c'est ce désir de vivre pleinement qui lui fait vivre au gré du temps de si belles expériences. On va se permettre à tout le moins de lui demander. On accueille avec grand bonheur Julie Beauregard-Maillé.
Bonjour,
Armand. Bonjour. La vie donc pleine et entière.
Tout à fait, oui. Oui, vous savez... C'est drôle parce que je me suis toujours demandé, ma mère en fait, ça s'est mal produit l'accouchement. C'est drôle que j'aille là tout de suite au début de l'émission.
Pourquoi pas, une naissance, c'est un début d'émission.
oui, tout à fait, merci pour le lien, vous me sauvez. Non, c'est ça, alors à un moment donné, je me suis questionnée là-dessus à l'adolescence, je me suis dit peut-être le fait que ma mère, ça s'est mal déroulé et j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, en somme, tu sais. Alors, elle a eu besoin de transfusion de sang et tout. Elle a fait une grande hémorragie et je me suis dit, est-ce que c'est à cause de ça que je suis consciente de ça? J'étais consciente de ça, enfant, de quand même cette chance-là. Il y avait quelque chose. Donc, je me demande si c'est pas un peu pour ça, quelque part, que je profite des moments.
Il y avait un bon livre à écrire là-dessus.
Ah oui, tout à fait. Oh Seigneur, oui, il y a beaucoup de livres à écrire, c'est ça mon problème, trop de sujets.
Mais tout ça pour dire que vous êtes une gourmande de la vie,
oui,
vous la mordez à plein temps.
Oui, une épicurienne. On peut dire ça comme ça.
Une véritable.
Oui, tout à fait.
Pas nécessairement à sombrer dans l'hédonisme pour le plaisir,
non, non.
Pour le plaisir, mais de vouloir prendre conscience de la beauté des choses que l'on voit. Mm-hmm. De saisir aussi les opportunités qui s'offrent à nous. Vous êtes un peu comme ça.
Oui.
Et le fait de vouloir toucher à plein de choses. Vous avez touché au journalisme. Ça,
oui.
c'est quand même intéressant parce que vous n'avez pas nécessairement le profil de...
Non,
parce que,
ouais. Quand on aime la vie, d'habitude, c'est pas un métier. Ben, les gens vont dire des fois les mauvaises nouvelles et tout. Moi, c'est drôle. J'écoute la radio, les nouvelles le matin. Puis, il n'y a rien ça ne m'affecte pas.
Ouais.
C'est sûr que quand il arrive quelque chose de très, très grave, comme des attentats ou tout ça, c'est sûr que oui. Mais c'est pas quelque chose, je le vois d'un autre œil, je m'intéresse à ça. Pourquoi? Probablement que ça partit effectivement du fait que, bon, quand on était adolescent, ma mère était conseillère politique, ça a commencé comme ça, puis elle rêvait à la maison, elle était attachée politique, en fait, pour un député, et elle nous racontait toutes les histoires qui se passaient. Alors, on était conscientisés très tôt au niveau vraiment plus de pas juste, c'est ça, se regarder le nombril, mais le social, le monde dans lequel on vit. Mon frère s'est orienté en politique, moi en journalisme. Il y avait, oui, à quelque part, il y avait un désir, à quelque part, un peu comme Pierre Foglia, tu sais, de changer le monde
mais
avec des courtes chroniques.
Mais ça rejoint, je disais tantôt qu'il n'y a pas de rapport, il y en a sûrement un. Vous êtes une grande curieuse.
Mm-hmm.
Quand on est comédienne, on est curieux aussi parce qu'il faut apprendre plein de textes, il faut comprendre l'auteur, il faut faire de la recherche.
Le journal.
Oui.
La nature humaine aussi.
Comprendre la nature
ça
humaine.
Ça revient à ça. Les deux, c'est un parallèle.
Et le fait de faire du journalisme, c'est d'être un témoin privilégié de la vie qui bat autour de soi.
Oui, oui. Et donc, c'est ça. Moi, en fait, c'est sûr que, bon, aujourd'hui, on ne fait plus du journalisme comme on en faisait avant. Mais j'adore un journalisme qui est plus humain. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a moins de place pour ça. C'est pour ça que, bon, j'ai créé mon blog à un moment donné, et puis c'est une façon qui permet de le faire. Mais je me rappelle la belle époque où, justement, à Radio-Canada, il y avait un journaliste, peut-être vous vous souvenez de lui, James Bamber.
Oui.
Ah, quel journaliste, lui!
Un modèle.
pour les gens à l'écoute qui ne savent pas nécessairement c'est qui, il partait, il faisait tout le Canada, il arrêtait dans un village, puis c'était pas compliqué, là. Lui, il n'y avait pas de sujet. Et puis, il s'en allait à la taverne du village, il prenait une bière, puis il écoutait les histoires. Puis, tu sais, des fois, il y avait des histoires de pêche, dépendamment où il était dans le Canada. Et puis là, il allait, évidemment, on lui donnait des noms, des contacts, puis il partait rencontrer ces gens-là qui avaient des histoires à raconter. Et je trouvais que c'était une bonne façon de faire connaître ce beau pays, mais aussi de réconcilier un peu, justement, comme on le dit souvent, ces deux solitudes.
Et James Bamber avait une qualité exceptionnelle, c'était de pouvoir marier le texte en fonction des images qu'il tournait. Nous a beaucoup inspirés, en tout cas les journalistes de ma génération.
Oui.
On essayait beaucoup de fonctionner avec les images, parce que l'image est aussi une forme d'expression. Une façon aussi peut-être de se tenir debout, dirait Fred.
Ah oui.
Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout.
J'aime beaucoup ce texte et cette interprétation de Fred Perlemin que vous avez proposé.
Oui. Je dois dire que, ça, c'en est un autre que j'aurais aimé marier, Fred Pellerin. C'est drôle parce qu'en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et quand on dit c'est un gars, mon Dieu, quel être simple, brillant et ce qu'on voit de lui, c'est ce qu'il est. Et il est passionné comme ça dans la vie. Puis, j'aime ce texte-là parce que, bon, c'est ça que j'aime avec Fred, c'est qu'il se permet, lui, ce qu'il a envie de faire, il le fait. Moi, c'est un peu comme ça aussi, je me suis dit dans la vie, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais.
Alors, vous et le puis, faites, ou... oui.
C'est allez. Un peu ça aussi, se tenir debout.
Voilà.
Et des fois, c'est pas toujours facile, par contre.
Julie, le fait de se tenir debout, c'est d'avoir été jusqu'au bout, on revient au journaliste, parce que vous êtes inscrite à l'UQAM et vous avez échoué aux examens.
Ah oui.
Et malgré tout, vous avez été admise. Comment vous y êtes-vous prise?
Ah ben ça, justement, j'ai exercé, je me suis... j'ai pas pensé. En fait, c'est assez simple, là. C'était drôle parce que je venais d'être refusée, à l'école de théâtre. Et puis, le journalisme, c'était mon second choix. Mais c'était vital pour moi d'être admise là-dedans parce que je me voyais très bien aussi là-dedans. Et puis, là, je me suis dit... non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça marchera pas comme ça. Et puis bon, je me dirige, je me souviens d'appeler ma mère, de lui dire « Maman, j'ai été refusée. » Elle dit « Mais non. » Tu sais, on est comme ça dans la famille. Nous, contourner le système, on connaît ça. Alors là, je pars, je m'en vais dans le métro. Je prends pas le trop de temps de réfléchir. J'arrive à l'UQAM, je demande où est le bureau du directeur des communications, du profil bac en journalisme. Et on me dit « Tel étage, parfait, je m'en vais là. » Et sa porte était entrouverte. Et pendant les années qui ont suivi, je n'ai jamais revu sa porte réentrouverte comme ça. Et là, moi, j'ai vu un signe. Alors, j'ai mis le pied dedans, puis je me suis présentée, puis j'avais été, il faut dire que je n'avais pas été refusée par beaucoup. Alors là, sa chance-là, ça m'avait un peu avantagée, puis j'avais dit, parce qu'il y avait plusieurs tests à passer, et c'était dans l'entrevue que ça s'était moins bien passé. Puis moi, j'avais mon opinion. Je savais que la personne qui m'avait interviewée, ça n'avait pas nécessairement cliqué. Puis c'était un prof qu'après j'ai eu, ça n'a pas cliqué, mais c'était un bon prof, là, j'ai rien à dire. Alors, j'ai dit finalement au directeur, j'ai dit, bon, voici ce qui s'est produit. Puis moi, je pense qu'il y a eu un jugement un petit peu... c'était arbitraire, c'était un peu subjectif son jugement là-dessus à cette personne-là. Et puis j'ai vendu ma salade. Je lui ai dit voici pourquoi je suis ici. Moi, je me vois faire ça. Et puis il m'a regardé en se disant, il me l'a dit, tu es venu jusqu'à moi. Et nous, c'est ce qu'on attend d'un journaliste, qu'il aille au-devant de la nouvelle, qu'il aille chercher l'information, qui se, tu sais, dans le fond, qui se débrouille, puis qui...
Alors, vous êtes une adepte, vous, de la pensée positive.
Tout à fait, puis, oui, absolument. Il n'y a rien d'impossible pour moi. Et c'est ça, je me suis dit tout simplement, dans le fond, c'est ça, il ne faut pas s'arrêter à une porte fermée. Puis ça, si j'ai un message à dire aux gens, c'est ça, ne vous arrêtez jamais à ça. Quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre.
Alors, vous avez de la suite dans les idées parce que vous nous proposez Charles Aznavour.
Ah, oui.
Amenez-moi. Alors, amenez-moi tous les désirs possibles. La porte ne sera jamais fermée si mon cœur souhaite y entrer.
Exactement.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin
debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la,
la, la, la, la.
Ah oui, parce qu'en plus, cette chanson-là, c'était, je me souviens, un été, on était dans le Carré Saint-Louis avec ma mère, et il y a un homme qui débarque d'Europe avec un instrument que, malheureusement, je ne connais pas le nom de cet instrument-là, mais c'est un peu, vous savez, comme quand on tourne une manivelle...
L'orgue de Barbarie.
Voilà. C'est ce que c'était. Je me souvenais plus du nom, mais c'est tout à fait ça. Oui. Maintenant, c'est ce qu'il nous avait dit. Et là, il débarque. Et puis, c'était un moment totalement magique. Il débarque avec son orgue de Barbarie, belle personnalité, tout ça. Et puis, il y avait des feuillets de toutes sortes de chansons. Et puis, il dit, « Quelle chanson voulez-vous entendre? » Alors, nous, on se met... Bon, on regarde ces feuillets, Ah, OK, Charles Aznavour. Il dit, parfait, vous allez chanter avec moi. On dit, OK. Et puis là, ça a donné qu'il y avait une dame qui avait déjà fait partie d'un chœur et puis tout ça. Et on était juste des dames. Et on se met à chanter avec lui. Il chantait très bien. Et là, le monde dans le Carré Saint-Louis se met à nous filmer, se rapproche. C'était un moment totalement magique. On a vécu quelque chose et tellement que les personnes qui étaient là, le lendemain soir, on s'est donné rendez-vous au Carré Saint-Louis parce qu'on savait qu'il revenait. Alors,
c'est un beau souvenir de cet homme à l'orgue de Barbarie.
Ah,
on pourrait
oui.
parler aussi oui. de l'homme au piano, pianoman, Billy Joel.
Ah oui, Billy Joel. Ah là, encore là, on replonge un peu dans mon adolescence. Billy Joel, c'est pianoman, encore là, c'est mon premier amour, qui jouait de la guitare, comme on s'était dit dans l'autre émission, mais qui jouait aussi du piano et de l'accordéon,
oui,
et de l'harmonica. Et dans Pianoman, moi, ce que je trouvais... Je vais vous dire, avec ça, il m'a charmé complètement. Parce que il y avait chez eux, il appelait ça la chambre de musique. Lui et son frère avaient leurs instruments là. Et puis, il nous invite un peu pour un petit concert. Et puis, il s'installe au piano, met sa musique à bouche dans un instrument pour être capable de jouer du piano avec ses doigts et d'avoir ça à portée de bouche, comme on dit. Puis, il se met à jouer ça. Et puis, ça, c'est dans les plus beaux souvenirs. Quand j'entends Pianoman, je pense à ça. Mais c'est le texte aussi là-dedans qui est formidable.
It's 9 o'clock on a Saturday. Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right.
Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be.
He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La 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 la.
Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar. Song tonight. Well, we're all in the mood for
Un beau texte, celui de Billy Joel, proposé par Julie Beauregard-Maillé. Rapidement, on a effleuré encore une fois avec Julie. Là, il faut prendre son souffle rapidement. Elle a tellement de choses à nous raconter.
C'est intense.
Oui, c'est intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais j'aimerais simplement que, parce qu'on a parlé de journalisme, vous êtes une blogueuse. Quels sont les thèmes que vous abordez sur votre blog?
En fait, je dirais que ça a beaucoup changé. C'est que au départ, j'avais été engagée par la chaîne Ma TV pour écrire un blog à chaque semaine dans la région, moi, d'où je venais. J'allais rencontrer des gens là-bas, puis ils m'avaient vraiment donné carte blanche. Alors, ce que je faisais, je me disais, j'ai une tribune, ce que je vais faire, moi, je leur avais dit, je veux rencontrer des gens. Je veux pas, moi, écrire un texte puis parler de mes affaires à moi. Non, non. Je veux aller rencontrer des gens inspirants. Alors, je débarquais, j'appelais et puis je débarquais au fil des semaines à toutes sortes d'endroits, comme un endroit, par exemple, je pense à ça tout à coup, la Maison de la musique à Sorel-Tracy, un endroit qui favorise la musique classique, le développement des jeunes musiciens. Et c'est un OSBL, en somme, et c'est des endroits comme ça qu'on a besoin en région. Alors, donc, je crée des blogs comme ça. Et puis, tranquillement, ça s'est transformé parce que de plus en plus, la fiction a pris un envol dans ma vie.
Mais pour aborder quel thème rapidement, en deux mots?
Les thèmes que je peux aborder, c'est toutes sortes de choses, de préoccupations, mais je vous dirais que là, c'est beaucoup relié. Bon, justement, j'ai abordé la vieillesse. Je pense qu'il faut prendre soin de nos vieux. J'ai le goût aussi de faire des essais là-dessus. Ça s'en vient dans les prochains mois. Alors, c'est des choses qui me préoccupent.
Comme vous parlez des aînés, si vous êtes parmi cette catégorie de gens qui ont connu cette période du Ciné-Club à Radio-Canada, vous allez sûrement reconnaître la musique qui va suivre.